Tu veux savoir comment l'armée, elle est hot, OK? Un de nos auditeurs, Anis, est venu nous voir à la station et il nous a amené ça. Regardez la belle boîte qui est là. Il nous a amené des suppositoires pour Gonzo pour que Gonzo ne perde pas sa voix pour ce soir. Il a reçu son t-shirt de l'armée. Hugo va d'ailleurs publier la photo. Fait Gonzo, la boîte, elle est ici.
C'est du local, ça, Ben, en plus. Là.
C'est que ça, Ben?
C'est du local, ça, là. T'sais? Fait que j'ai mes petites fusées, si jamais je suis correct. Il y a eu son chandail. Il y a eu son chandail de l'armée.
12 suppositoires pour usage rectal.
Ouais. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, hein, les
Gonzo,
gars.
Gonzo, je te laisse aller.
Je vais vous le rappeler.
Regarde-moi ça.
Ce n'est pas fait pour manger.
Non, ouais, non.
C'est ta tante qui a fait ça. Hein?
Ma grand-mère.
Elle avait mangé ça.
Ouais.
Qu'est-ce qui est arrivé quand elle a mangé ça?
T'es très dur à avaler, je te dis. Avec le papier.
Ouais, mais Gonzo, je te rends ça après le show. Okay?
Avec le papier.
Ouais, on te niaise avec le papier.
Non, on l'avait mangé sans papier. Tu sais qui s'était rentré avec le papier?
C'est moi.
Ah, c'est...
Attends, tu t'es rentré ça avec le papier?
Ouais, j'étais
jeune et sans dessin.
Et rempli de fissures anales par la suite également.
Effectivement, on m'avait rien dit. on m'avait dit, tu te rentres ça parce que je manquais de voix puis j'animais un congrès quelque part.
Fait qu'il se l'est rentré ou ça n'a pas fait effet parce que c'était sans le papier, t'imagines?
Les gars à l'extérieur de la chambre, ça bidonnait. Parce que moi, je criais, là, je n'avais pas de fun.
Ça t'a défendu?
Ben oui, je suis sorti de la salle de bain avec les mains pleines de sang.
Oh!
Ouais. Tabarnade!
Quand tu touches à cette boîte-là, ça te ramène-tu des... Tu sais, je parlais de PTSD, là, de choc post-traumatique cette semaine, j'imagine.
Non, j'ai tellement raconté cette histoire-là que non, ça me dérange plus.
Gonzo, je te le mets après le show, hein?
Non, mais il n'est pas question, ma voix va très bien.
OK.
David est là.
David.
Comment ça va, David?
Salut, David!
Hey, c'est incroyable de commencer une chronique après une affaire de suppositoire de 30 secondes comme ça. Ça va vraiment mal, les amis. Là. Ça commence pas bien la chronique.
essaye de faire abstraction, David. OK, on efface ça, on oublie ça, David.
On se concentre et on y va.
David, ça
dans les deux cas. Dans les deux cas.
Si t'as besoin, David, je suis ton frère, ça me fait plaisir de t'aider avec ça.
Pas de problème.
Comment t'as réagi, David, à cette autre victoire du Canadien qui a balayé la Floride cette année?
Incroyable, genre. Je pense que comme tous les amateurs au Québec, les gens des médias qui suivent le Canadien, ça a été les deux plus grosses victoires de l'année. Pas la dernière ni l'avant-dernière, les deux. Pourquoi? En Floride, on est là, on gagne une partie qu'il faut absolument gagner. Parce que là, on est sur un slump. Ça va mal, on perd. On est en train de sortir des séries. On a un mauvais voyage. Là, on gagne cette grosse partie. Donc, c'était déjà la partie la plus importante de la saison. Là, on vient et on gagne d'une manière spectaculaire comme ça. Ça, là, ça n'a pas de prix pour les Canadiens de Montréal. Deux victoires comme ça. Balayer la Floride, mais principalement, deux victoires comme ça. Une victoire in extremis, ça te donne le push nécessaire pour finir la saison. Pour te dire, on a battu les meilleurs, ou presque les meilleurs. Donc, il n'y a personne qu'on ne peut pas battre. Il ne reste que quelques parties. Et maintenant, ce qui va être très, 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 très important, les amis, très important, c'est le match contre Boston. Il faut absolument gagner ce match-là. Il faut continuer cette poussée. Faut pas revenir dans une défaite décevante contre une équipe qui fera pas les séries, puis là on retombe à terre. Non. Il faut aller de l'avant, puis il faut absolument rentrer dans les Bruins et aller chercher ce match-là le plus facilement possible.
D'ailleurs, pour compléter là-dessus, pas de changement à la formation du Canadien de Montréal, même si Kapanen était sur la glace tout sourire aujourd'hui avec le Canadien de Montréal.
Ben non,
tu gagnes, pas de changement, c'est sûr. Hey, David, il faut parler de Nick Suzuki. T'as parlé de la victoire, oui, contre les Panthers. On a parlé du but égalisateur, du but gagnant. T'sais, on parle de la première saison depuis Kovalev avec les 80 points et tout le reste. Il y a une progression au niveau des points à chaque année pour Suzuki, mais cette année également, on en parle souvent, il y a une énorme progression au niveau de son leadership. À quel point c'est instrumental, Nick Suzuki, au succès du Canadien de Montréal?
C'est incroyable. On se posait la question, nous, depuis plusieurs années qu'on travaille ensemble, est-ce que Suzuki, c'est un centre numéro 1? Est-ce qu'il est numéro 2? Est-ce que ça va être un jour... il va se faire passer par Dak à un moment donné? Je parle d'il y a 2 ans. Et là, on est arrivé à un autre niveau, là. Là, on parle d'un joueur... Je pense qu'il n'y a plus personne qui se pose la question est-ce que c'est un centre numéro 1 dans la Ligue nationale?
Non.
Je pense qu'il fait partie, à mon humble avis, des 10 meilleurs centres de la Ligue nationale. Et principalement, Pourquoi? Au niveau, il est complet. Donc, il est style Bergeron. Je ne dis pas qu'il est le grand Bergeron, mais il y a des aptitudes qui font que c'est un selkie dans certains sens. Et d'une autre manière, il produit. Et je pense que ce qui est le fun avec Suzuki, c'est que c'est rien que le début, dans le sens où je pense qu'il peut encore s'améliorer. Mais la corrélation, les amis, que... Et là, je veux que les gens écoutent bien, ça va être important. C'est pas seulement Suzuki qui a une éclosion cette année. C'est Suzuki, finalement, qui a une éclosion de ses ailiers. Et là, on se retrouve avec un Caulfield qui est vraiment productif, un gars complet. Slavkovski en deuxième moitié de saison, qui et c'est en deuxième moitié de saison que Suzuki est parti comme une fusée après le tournoi des Quatre Nations aussi. Je pense que il a des meilleurs joueurs qui l'entourent. Il y a Lane Hudson. Si on enlèverait Hudson de l'équation, où est-ce que Suzuki est dans sa progression? C'est un peu de tout. Et je me dis, Demidov n'est pas encore là.
Ouais.
Qu'est-ce qui va arriver quand Demidov, je peux même pas imaginer, les amis, un power play. Déjà qu'on a, je pense, un des cinq meilleurs power play de la Ligue. Personnellement, je pense qu'on peut le travailler encore. Hudson, un ou deux ans de plus, c'est un des trois à cinq meilleurs de la Ligue. Mais qu'est-ce que, sur un power play, imaginez-vous, Demidov et Hudson sur le même power play. T'as comme deux génies avec un quotient intellectuel de 200 sur le même power play.
Et Suzuki.
Niveau hockey.
Et Suzuki aussi. Au niveau de l'intelligence. Là.
Tu parles de Suzuki qui est cérébral. Et là, ouais. T'as ton gros gars devant le filet qui est Slavkovski, si tu veux le mettre là.
Ouais.
T'as Patrick Laine l'année prochaine qui peut prendre lancer sur réception. Cole Caulfield, si tu veux pas mettre Laine. T'as Matheson qui peut rentrer de temps en temps. C'est juste effrayant ce qu'ils sont en train de faire. Et Suzuki, c'est un vrai capitaine. Pourquoi? Il dit quelque chose et il le fait. Il a dit à Ken Hughes, laisse-nous l'équipe, je vais aller, moi. Puis il a dit, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire.
David, même chose pour Lane Hudson. Écoute, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur lui? Puis tantôt, on a eu un petit débat avec Gonzo. Moi, ce que j'ai dit, David, c'est que même s'il peut toucher 9-10 millions par année, j'ai dit qu'il n'y a pas le tempérament d'un gars qui va vouloir toucher ce qu'il mérite. Puis je ne serais pas surpris qu'il achète quelque chose de proche ou un petit peu plus que Nick. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Oh, moi, je pense que tu as raison, je l'ai dit. C'est l'ancienne firme à Kent Hughes. Et en réalité, son agent, c'est pas l'agent le plus ancien de l'équipe de Kent Hughes, de cette agence. Moi, je dis pas que c'est pas un bon agent, loin de là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je pense qu'ils vont trouver un moyen de s'entendre. Et je pense que les Canadiens ont intérêt à régler ça le plus rapidement possible. Parce que même s'ils prennent leur temps, éventuellement, le gars, il a beau être gentil, il a beau vouloir signer à rabais, il a beau aimer Montréal, mais à un moment donné, t'as le cap qui monte, il y a une réalité, là, t'as des chiffres qui sont très faciles à comparer, t'as peut-être un Calder, t'as peut-être maintenant un Norris, t'as peut-être certaines choses qui font en sorte que ils ont pas le choix, même s'ils veulent un spécial, de le payer plus cher.
C'est quoi ta prédiction, toi? C'est quoi ta prédiction sur 8 ans?
Moi, je pense qu'il va signer 6 ans. Mais je dirais que s'il faudrait que ça ait 8 ans, je peux pas imaginer au-dessus de 9 millions, je dirais. Mais sur 6 ans, je peux le voir signer un contrat de 8.1, 8.2, qui est exactement plus ou moins ce que notre ami Quinn Hughes a signé à Vancouver. Mmh. Avec, OK? Et peut-être le même montant, même s'il mérite plus, le même montant. Pourquoi? Parce que tout ce que je vous expliquais avant avec Quinn Hughes, mais Lane Hudson, les amis, je sais pas, il y a un trend, là, si ça continue, c'est 69 points. 69 points, là, ça serait le troisième meilleur défenseur de l'histoire de la Ligue nationale comme recrue. Il y a seulement Leach et Murphy.
Ouais.
Et Murphy, moi, j'étais là dans ces années de Leach et de Murphy. La Ligue nationale, au niveau des buts par match, c'était beaucoup plus élevé. Donc, ce qu'il a créé cette année, et une autre attaque, les gens oublient, des gars comme Leach, là, avant de jouer leur saison recrue, il avait déjà joué 14 matchs la saison d'avant. Et il avait déjà fait comme 16 points. Donc, quand ils sont rentrés dans leur année recrue, ils avaient déjà un paquet de matchs de la Ligue nationale comparé aux deux parties de Lane Hudson. Les gens ne regardent pas ça. Mais c'est une réalité. Donc, il y a plusieurs de ces défenseurs en plus qui avaient déjà une dizaine à une vingtaine de matchs l'année d'avant. Ce que Lane Hudson n'a pas eu. Donc, ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle, et ça va être le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue nationale comme recrue. Je sais pas si les gens... Et c'est pour ça que je réagis tellement sur mes... toutes mes plateformes. Ça fait deux semaines. J'essaie de casser tout le monde partout. Ils disent, ah, là, Hudson ne gagnera pas le Calder. Ça va être Wolf. Ça va être... Ça, c'est des gens qui cherchent à se montrer intéressants en allant contre les vagues. La réalité, c'est que c'est impossible que tu as le meilleur défenseur de l'histoire de la Ligue nationale ou un des trois meilleurs qui ne gagne pas le Norris, qui ne gagne pas le Calder. C'est juste impossible.
Puis David, donc, pour donner du poids là, David, à ça, mettons Hudson là, dans le top 15, là, le dernier qui a comme été dans le top 15, c'est en 91-92 avec Lidstrom. Le reste, c'est toutes des marques des années 70-80, je veux dire.
Écoute, t'sais. Steph, j'ai vu, ça fait longtemps, là. J'ai vu pour les Canadiens, on y va en sens inverse. J'ai vu Weber, j'ai vu Subban, j'ai vu Markov, j'ai vu Chelios, j'ai vu Robinson, Savard, Lapointe. J'ai vu tous ces gars jouer, moi. Lui, il est juste là avec eux. Il est juste là avec eux. Et certainement plus haut que plusieurs d'entre eux. Lane Hudson, ça va être un gars sur le numéro 48, va être attaché à Hudson pour toujours dans les numéros des Canadiens. Je suis pas en train de dire qu'ils vont retirer son chandail demain. Allez pas dire ça partout dans les médias. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que le numéro 48, il va identifier à Lane Hudson dans sa carrière pour Montréal.
Puis David, si le Canadien fait des séries, pour toi, est-ce que Saint-Louis va être en nomination pour le Jack Adams?
Ça va être serré. C'est sûr que c'est Spencer Carberry qui va gagner. Là, c'est même pas une question. Là. C'est sûr que c'est lui qui gagne. Hein. Mais je pense que, oui, dans la discussion avec Dean Evans, Travis Green, Scott Arniel, il y a 5 bons candidats, peut-être 6. Mais s'il fait les séries, je pense pas que tu as le choix de ne pas le mettre. Ce gars-là, il a une saison incroyable. Il y a eu quelques blessés importants. On parle de Goulet, justement, qui est revenu maintenant. C'est incroyable. Là. C'est comme t'as un top 2 défenseur qui revient à la fin de la saison. C'est parfait. Mais il a perdu Goulet. Il n'a pas eu l'année pendant longtemps. Il y a un début de saison difficile. Et il se revire de bord comme ça, puis il est rendu presque dans les séries. Il ne gagnera pas, je vous le dis tout de suite, il ne gagnera pas le trophée du meilleur entraîneur. Mais, finaliste, je pense que ça va certainement se jouer entre lui et possiblement Travis Green et Arniel comme troisième, parce que pour moi, Dean Evason aussi, avec ce qui est arrivé à Gaudreau et ainsi de suite, ça serait difficile de ne pas le mettre dans les finalistes non plus. Mais je pense que ça va se jouer entre ces gars-là.
Ouais, comme on disait avec George, si Evason est en nomination, ça veut dire que Columbus a fait les séries, mais si Columbus rentre, ça veut dire que le Canadien ne rentre pas. Donc, tu comprends, ça va
ouais.
C'est un vote sur les deux. Puis, on a inclus également Jim Montgomery, ce qu'il fait avec les Blues de Saint-Louis. Là, c'est complètement fou.
Oui, c'est phénoménal.
Ouais. David, on a parlé un peu du balayage contre la Floride et tout le reste. Suite à la victoire de mardi, est-ce que tu es prêt maintenant à te prononcer et à mettre le Canadien de Montréal en séries éliminatoires?
Oui, je le mets, le Canadien en série éliminatoire. C'est sûr qu'on a des réserves. Pour moi, il reste 3 équipes, on le sait, tout le monde. C'est les Canadiens, les Rangers et les Blue Jackets. Il n'y a pas... Détroit, c'est terminé. Les Islanders, c'est fini. Tout ça, c'est terminé. Mais je me dis, si je regarde le calendrier vite fait, on sait que les Canadiens ont un calendrier favorable. On sait que Columbus, c'est complètement l'inverse. Et on sait que les Rangers aussi, ils ont un calendrier qui n'est pas très facile. Maintenant, où est le problème? Deux choses. C'est que les Canadiens, ils ont un problème souvent à commencer à gagner contre des équipes faibles. Ça, c'est un problème. Et ça, c'est causé par la jeunesse de l'équipe, le manque d'expérience, et c'est ce qu'on voulait vivre cette année. Être dans le mix pour vivre ses émotions. Être capable de gagner quand ça compte. Donc, pour les Canadiens de Montréal, ce qui va être important pour sceller le deal, il faut que tu te concentres sur toi-même. Il ne faut pas être trop émotif. Il faut que tu prennes une partie à la fois. Et il faut que tu vas de l'avant et que tu gagnes ces parties-là. Ça, c'est la partie difficile à faire. Les Rangers, pour moi, m'inquiètent beaucoup pour les Canadiens de Montréal. Ouais. Beaucoup plus que Columbus. Columbus, il faut qu'ils gagnent leur match. Ils commencent à être fatigués. Ils ont eu quelques bons matchs dernièrement. Mais les Rangers, là, c'est des vétérans. C'est des gars qui ont une saison catastrophique. Ils sont capables d'arriver et dire, bon, on a sauvé la saison. On a fait les séries. Une fois dans les séries, on sait jamais. Si tout s'est arrangé entre le DG, le coach et les joueurs, cette équipe-là, elle peut faire du mal aux Canadiens. Et principalement aussi, parce qu'au bris d'égalité, elle rentre. Ils finissent les deux au même nombre de points, contrairement à Columbus qui ne rentrerait pas VS Canadien. Les Rangers, c'est lui qui passe et non Montréal. Donc non seulement Montréal doivent finir en avant, mais doivent les dépasser en points. Donc, Je pense que le plus grand ennemi des Canadiens, jusqu'à la fin de la saison, c'est les Rangers de New York. Maintenant, quel est l'avantage pour les Canadiens? C'est qu'ils ont zéro pression avec une barre. Donc oui, il y a une pression, on veut faire les séries, on est proche, on va pas moffer ça à la dernière seconde, mais la réalité, c'est qu'on n'avait pas ces attentes. On les voulait dans le mix. Si on arrive au dernier match de la saison puis on rentre pas par un point, par deux points, que c'est les Rangers ou même Columbus, les gens vont dire, ben, mission accomplie. Bravo, tout le monde va être de bonne humeur, on rentre à la maison, l'année prochaine, on est confiant qu'on va aller faire les séries. Tandis que les Rangers, eux, c'est l'inverse. Ils ont tout à perdre. S'ils livrent pas, il va y avoir des têtes qui vont tomber, les joueurs, il va y avoir des échanges, il va arriver des affaires. Ils ont intérêt à gagner, ils ont de la pression. Les Canadiens n'ont pas cette pression.
David, de tout ce que tu vois avec le Canadien en ce moment, là, puis cette question-là, la réponse peut changer à chaque semaine. Mais là, dans la position actuelle où ils sont, qu'est-ce qui t'impressionne le plus?
Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que c'est une équipe, Georges. Il n'y a pas de politique avec les Canadiens de Montréal. Il n'y a pas de gars qui joue pour un contrat puis il veut rien savoir des autres. Les jeunes, les vétérans, tout le monde se donne. Et tellement de matchs de un but qui ont gagné, qui ont perdu, sont dans les games. Et ce qui est vraiment, ce qui est le plus épatant pour moi, c'est qu'on a eu toutes sortes de joueurs qui ont traîné cette équipe sur leur dos à des moments différents. Suzuki, Caulfield, Brandstedt, ça a été toute la saison, on le donne. Mais à un moment donné, c'était dernièrement Slav qui a fait gagner des matchs. En début de saison, c'était Gallagher. Après ça, c'était Laine quand il est arrivé de sa blessure. Ensuite, c'était Jake Evan et Armia. À un moment donné, c'était Josh Henderson. Donc, c'est toute l'équipe au complet, dans les 82 parties ou les 74 parties actuelles, qu'à un moment donné ou l'autre, quand les autres ne faisaient rien, il y avait un qui se levait et qui gagnait ses matchs. Comme à l'heure actuelle, on voit que Jack Evans, Armia, bon, blessé, ainsi de suite, mais on voit qu'ils font rien. Mais à un moment donné, c'est eux qui donnaient des points aux Canadiens. Donc, je pense que l'équipe, elle est unie, c'est une vraie équipe. Et ils sont capables de frapper dans tous les sens avec tous leurs trios et tous leurs joueurs.
David, on en a parlé avec Georges et les gars ce matin en parlaient, fait qu'on s'est dit qu'on allait faire un peu chemin là-dessus. Ce soir, Swayman Montembeault devant le filet. Si on te disait, tu prends lequel? Là? Si tu prends en considération les contrats et tout le reste, pour toi, est-ce que tu prends Swayman à ce prix-là, à 8,25 avec les années qui restent, ou Montembeault à 3,15 avec le contrat?
Dans la réalité des Canadiens, je peux pas prendre Swayman.
Pas dans la réalité des Canadiens. Si t'es déjà dans la Ligue nationale de hockey, parce qu'on peut pas penser à Fowler qui arrive.
Non, ben écoute, c'est sûr. Écoutez, là, c'est Monty, là, il est pas dans la catégorie de Swayman. Je m'excuse.
Exact.
Je vais en décevoir à la maison qui sont de mauvaise humeur, ou on va être chauviniste, hein, on va être des chauvins, tout ce que tu veux. La réalité, c'est que Montembeault, là, dans la Ligue nationale, c'est 892 de moyenne de pourcentage d'arrêt depuis qu'il a commencé. Et même dans le junior, là, je parle même pas au niveau de la Ligue nationale. C'est jamais été un gardien qui est au-dessus de 900, 2.2, 3.3 de moyenne de buts accordés. C'est pas un gars qui a des statistiques éloquentes. Montembeault, c'est sa meilleure saison en carrière cette année, puis il goal à 8.99. C'est pas Carey Price à 935, là. Donc, on parle pas de Swayman. Swayman, c'est un gars que dans sa carrière de la Ligue nationale, il goal pour 910. À 915 de pourcentage d'arrêt, et dans sa carrière, et là je parle même pas du NCAA, je parle même pas de la Ligue américaine, je retourne jusqu'à l'âge de 16 ans ou 14 ans. Il goal entre 925 et 940 de pourcentage d'arrêt, toujours, même dans la Ligue américaine. Donc on parle pas du même niveau, là. Les Boston, ils ont pas une bonne année, je donne. Swayman, il y a eu beaucoup de difficultés avec sa négociation de contrat. Ça a pas aidé la saison. Mais c'est clair que si j'ai à comparer les deux, et je vais aller plus loin que ça. Si les Canadiens n'ont pas Jacob Fowler dans leur pipeline pour venir, c'est sûr que je ferai cette transaction même demain pour les Canadiens.
Ah, les yeux fermés. Parce que les yeux fermés.
Il n'y a pas de débat dans ça.
Ah non, on est d'accord.
Il
n'y
a pas de débat.
Ah ouais.
OK? Mais la réalité, les amis, c'est que Swayman, c'est un meilleur gardien. Il y a juste besoin d'une bonne équipe pour pouvoir gagner. Donc, ouais. Ça revient à ça.
Merci,
David.
Dave.
Merci beaucoup. Bon match ce soir. Bon week-end également, merci. Du Canadien. Bon, on se reparle la semaine prochaine, David.
Bonne semaine, les
Merci,
amis.
Merci, David.